Vivrons-nous demain par Jean-Pierre Essrand. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler aujourd'hui d'urbanisme dans la démocratie, ou l'urbanisme et la démocratie. Tout d'abord, nous allons redéfinir ce mot urbanisme. Bien sûr, les villes ne datent pas du mot et sont bien antérieures à ce concept, qui est un concept assez récent. Jusqu'alors, la construction des villes était, part intégrante du travail des civilisations, de la responsabilité des princes, des dirigeants, des élus ensuite. Mais le mot urbanisme a été créé par un Espagnol, Cerdà, qui était un ingénieur, et qui, dans cette époque de la fin du 19e siècle, qui est une époque où on transforme tout en science, ce qu'on a pu appeler le scientisme, eh bien, Cerdà va croire, du moins, va inventer le concept d'urbanisme comme science. Alors, il est évident qu'il n'y a pas un grand changement entre l'avant et après. Simplement, nous sommes dans dans un vocabulaire et il est important que ce mot qui devient scientifique, on voit le concept qui change entre la ville qui était considérée comme un art ou comme une technique d'assainissement, d'hygiène, et aussi tout le côté de l'embellissement, les allées, les alignements, les arbres qui représentaient des colonnes à travers une modification de la nature. Et on a tout d'un coup la métaphore scientifique médicale qui va s'appliquer à la ville. Donc l'urbaniste qui était avant soit le politique, soit un architecte, ingénieur, qui n'était pas tellement nommé comme tel, comme urbaniste, va tout d'un coup prendre les habits du scientifique. Alors, on a vu cette dérive chez les architectes notamment, qui se réclament, les architectes contemporains, qui se réclament d'être les chirurgiens de la cité. Alors, évidemment, ça donne, surtout dans la période actuelle, toute l'irréfutabilité du scientifique, puisque la science ne se discute pas. Et donc, quand on est habillé en scientifique, on n'est plus dans le débat démocratique, qui est évidemment le sujet de cette émission, vous l'avez compris. Alors là, déjà, il y a un problème parce que les acteurs changent de statut et le vocabulaire également va suivre. Donc on va prendre les métaphores. Par exemple, nous avons parlé en début de cette série de chroniques du cœur de ville, du cœur battant de la ville, mais ça sera aussi toutes les métaphores circulatoires sur l'embolie par rapport à la congestion des rues, et on aura aussi les espaces verts qui étaient avant des jardins, des parcs, des allées, toutes choses qui avaient un sens et une dimension, devenir les poumons de la ville, et donc encore une fois une métaphore physiologique. Alors c'est évidemment une grande confusion dans le débat, puisqu'en fait la science n'est pas une démocratie et la science ne se déclare pas à travers des sondages ou à travers des votes. Elle a une réfutabilité qui ne dépend pas justement des humains et des sociétés humaines. Donc, nous nous trouvons dans cette fin du 19e siècle avec, de plus, puisqu'il s'agit de Cerdà qui a été donc l'architecte de Barcelone, c'est assez connu, bien que Barcelone n'ait pas une caractéristique particulièrement différente des villes du passé. C'est une quadricule, c'est-à-dire c'est divisé comme un damier. Et on a les quartiers anciens qui sont des labyrinthes. Là aussi, c'est rien de d'exceptionnel. Alger, par exemple, il y a la Casbah et puis il y a la ville moderne colonialiste qui est sur ce thème. Et on peut prendre des exemples bien plus anciens dans le monde. Mais enfin, ça fait partie aussi d'une sorte de mythe actuel qui a été propagé, je pense, par l'idéologie de l'indépendance de la Catalogne. Bon, enfin ça, je ferme la parenthèse par rapport à cela. Il n'en reste pas moins que on se trouve à cette fin du 19e siècle devant une forte, on peut dire, expression rationnelle de redessiner les villes. L'exemple de Paris est évidemment le plus parlant, et non seulement pour les Français, mais on peut dire que la ville Lumière a eu une influence assez importante dans le monde entier, et en tout cas elle est toujours admirée des touristes, et on peut dire que Paris, pour l'essentiel de ce qui est visible, même si on voit au détour de quartiers, des cours intérieures, la ville médiévale que décrit Victor Hugo dans Les Misérables, on a en fait une ville moderne, une ville du 19e siècle, avec une grande unité de façade, une grande unité de architecturale, et aussi tous les éléments d'agrément qui sont ajoutés, qui sont les parcs, les allées, les petites places, enfin, et les grands espaces monumentaux. Donc, ce qui est assez surprenant, c'est que cet apogée qui arrive au moment où justement cette science naît, science évidemment entre guillemets, eh bien, c'est à la fois le moment où on peut dire où les villes ont atteint une sorte d'apogée, et aussi une apogée qui ne se reproduit plus. On peut dire que, par exemple, toutes nos références de villes, c'est effectivement les villes très anciennes, Venise, par exemple, je prenais l'exemple de Paris, et les villes, la référence quand on parle de ville, c'est toujours la ville ancienne, et la ville moderne est toujours qualifié de terme péjoratif, bon, les grands ensembles, la banlieue, les quartiers de bureaux, les quartiers d'affaires, mais enfin, c'est jamais un lieu de visite touristique, et c'est assez surprenant comme phénomène. En fait, on pourrait même dire que le moment où le concept est créé, c'est-à-dire qu'on le faisait avant, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose dans le savoir, on faisait les villes, mais au moment où on dit justement, on met des mots sur l'action, mais c'est au moment où la chose elle-même meurt, ou du moins ne se renouvelle pas, ou en tout cas d'une manière qui est moins brillante et remarquable que ce qu'elle était après. Donc, quelque part, on pourrait dire qu'il s'agit du champ du cygne de la ville qui est créé en même temps que le mot urbanisme. Or, tout ça, c'est pas très positif, parce que aujourd'hui, justement, il faudrait voir quelle est la situation assez complexe que nous avons. Mais en fait, Moi, je n'ai pas une vision négative. Je dis simplement, les choses sont différentes. Et effectivement, la cité telle qu'elle était visible, construite, nous devons en tirer des leçons, mais aussi ne pas penser qu'on va pouvoir la refaire à l'identique et la prolonger. Alors, c'est là où intervient justement ce débat sur la démocratie. Alors on pourrait dire qu'avant, ces villes-là, si on prend par exemple l'exemple de Paris, la construction de Paris n'a pas été particulièrement démocratique. On l'appelait donc la ville haussmannienne. Ça c'est, je pense, aussi la Troisième République qui a essayé d'effacer le rôle de Napoléon III. En fait, on pourrait dire quand même c'est une ville napoléonienne, en tout cas la ville du Second Empire. Et Haussmann, tout mégalomane qu'il était, n'était que le metteur en œuvre de cette politique-là. Donc il était un grand commis de l'État. Et on ne peut pas non plus lui attribuer ce Paris qui est justement cette ville des Lumières dont on parlait à l'instant. Donc aujourd'hui, la question qui va se poser avec la démocratie, c'est justement quelle est cette chaîne de décision aujourd'hui, dans la mesure où ce pouvoir autoritaire n'est plus là, et on peut s'en réjouir bien sûr, mais les choses deviennent plus complexes parce que on se trouve avec justement, alors je ne sais pas si c'est la conséquence directe de la création du mot urbanisme, mais on se trouve avec une cohorte importante de technocrates, d'urbanistes qui sont réclamés par des architectes, le mot géographe, sociologue et autres qui prennent ce mot pour eux. Donc une technostructure qui a pris une part importante de pouvoir et qui a fait, comme toutes les technostructures, créer un langage qui lui est propre et qui met à distance les populations, d'abord qui met en distance, je pense, les élus, en montrant qu'il s'agit de quelque chose de très complexe, et on parle effectivement d'éduquer les élus et aussi d'éduquer les populations. Bon, tout ça est quand même pose question, et on peut se demander quelle est justement la relation qu'il y a entre le désir des populations, l'intérêt général et ces différents acteurs qui sont autour de ce fait urbain. Alors effectivement, on reprend, hein, il y a donc les élus dans une démocratie élective et ensuite, on a donc ces corps intermédiaires là de technostructures. Et puis il y a les populations, alors avec des représentations. Alors on a parlé beaucoup aussi de démocratie directe. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en œuvre parce que la démocratie directe, on ne sait jamais très bien qui c'est qui décide, parce qu'il y a des prises de pouvoir qu'on a pu remarquer dans les communautés de quartier. Et souvent, c'est à peu près les mêmes classes sociales qui s'attribuent la parole et qui s'attribuent le pouvoir de décision. Donc, les choses ne sont pas simples par rapport à cela. Donc, on peut se demander, avec les municipales qui sont en train d'arriver, justement, les termes d'un débat démocratique, à la fois qui va être le débat sur lequel les citoyens vont voter, et dans quels termes il sera donné à la population, et aussi quels choix seront faits. Bon, ça va être, après la pause musicale, on va pouvoir parler de cela, mais je voudrais rappeler un principe assez général de la démocratie. La démocratie fonctionne sur l'alternance, et cette alternance, elle varie entre, d'un côté, des conservateurs et d'un côté, des progressistes. Alors, ce débat progressiste de conservateur, effectivement, il se traduit en termes clairs et visibles sur une ville, parce que le conservateur, lui, va vouloir conserver ce qui existe, et ça peut être aussi d'une manière excessive, une espèce de momification de ce qui est le passé. Et on peut dire, pour le progressisme, lui, il peut faire table rase et vouloir effectivement construire un monde nouveau à partir, si ce n'est de la démolition du présent, du moins avec des modifications très importantes. Alors, il faut dire que ce débat conservateur et progressiste n'est pas le combat du bien et du mal. Ce conservatisme et ce progressisme, ils passent à travers chacun de nous, et je dirais même qu'il est absolument nécessaire. Donc l'illustration par rapport à ce que je viens de dire est parfaitement claire. On a bien sûr besoin de conserver les éléments du passé. On a vu l'émotion, par exemple, par rapport à l'incendie de Notre-Dame qui a saisi les populations d'une manière générale, et le débat qu'il y a autour de la reconstitution de la flèche de Viollet-le-Duc, débat dans lequel je ne vais pas entrer, bien sûr, mais qui montre bien quel est ce débat entre progressisme et conservatisme. Alors, je vais conclure par rapport à ça. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que les deux sont nécessaires. Et je cite un écrivain qui est oublié aujourd'hui, qui s'appelait Roger Icor, et qui avait dit, j'avais noté ça il y a fort longtemps, il avait dit que l'homme préhistorique, il y avait déjà une gauche et une droite. L'homme de droite disait il faut tuer le cheval pour nourrir les enfants, et l'homme de gauche disait il faut apprivoiser le cheval pour qu'il puisse nous servir et être à notre service. En fait, les deux sont nécessaires, et je pense que c'est la conclusion provisoire à ce débat entre progressisme et conservatisme sur la ville. Thank you. Oui, c'était donc Jean-Baptiste Lully, c'était la musique du grand siècle, effectivement qui n'était pas le grand siècle de la démocratie, mais on peut dire que ça a été aussi, dans la forme architecturale, un exemple qui a servi au monde entier. Donc, revenons à notre propos sur les débats sur l'urbanisme, notamment sur une campagne qui va se présenter dans les villes de notre pays. Et il faut dire que je ne saisis pas très bien, justement, cette alternance dont je parlais, ou cette dialectique nécessaire qui est entre la gauche et la droite, ou les deux options conservateurs et progressistes, bon, qui tient peut-être à une particularité de la politique française aujourd'hui, mais qui me paraît pas très saine. Et donc, il serait intéressant que le débat se pose en ces termes-là. Et aujourd'hui, on peut dire que tous les, d'une manière générale, que tous les partis politiques ont pris, à la place d'un débat justement tout à fait démocratique, ont pris le thème de l'écologie comme thème unique. Alors ça, je veux dire que la démocratie, elle est sur le débat. Et quand il y a uniquement une course à l'échalote où ça sera plus vert que moi tu meurs, on peut pas dire que ce soit forcément démocratique aujourd'hui. Bon, donc il serait important, ne serait-ce d'ailleurs que de définir sous ce vocable d'écologie. Alors rappelons ce qu'est l'écologie. L'écologie est une science, en tout cas une branche de la biologie qui étudie les milieux naturels, que l'on a traduit par un mot anglais une traduction du mot anglais qui est environment par environnement, ce qui en français n'est pas très très juste et adéquat. Et aujourd'hui, qui est une forme d'expression politique, peut-être totalement justifiée, mais en tout cas, qui est assez brouillée sur ses objectifs, et en tout cas, qui ne fait pas l'objet d'un débat. Alors, je voudrais poser quand même ce paradoxe sur l'historique de l'écologie. On peut dire que, d'abord, la première société écologique, elle est née aux États-Unis au début du XXe siècle, avant la guerre de 14. Et on peut dire que c'est une expression conservatrice. Et, alors, les États-Unis, c'est un grand pays rural, surtout à l'époque, qui a modifié la nature existante de ce continent, mais avec aussi une très forte présence des paysages naturels. Donc, cet esprit du pionnier lié à la nature, c'est une constante de la philosophie américaine, Whitman, à la fois que l'on trouve dans les philosophes, et aussi, on peut dire, qui est partagé par une grande partie de la population de ce pays. Alors l'écologie, elle est, on peut dire, le maintien d'une sorte d'ordre naturel existant, et elle s'oppose à, on peut dire sur un plan politique, aux États-Unis, aux décisions fédérales, c'est-à-dire à un État vertical, et c'est surtout une position, on peut dire, de communauté rurale qui demande l'autonomie et qui gère elle-même ses propres espaces. Donc on se trouve avec cette vision archaïque, on peut dire, mais je ne porte aucun jugement de valeur sur cela. On peut dire qu'elle subsiste aujourd'hui en grande partie aux États-Unis. Dans les années 70, il y a eu une variante hédoniste avec le mouvement hippie, qui était aussi une sorte de retour à la nature, associé à des drogues douces et à la liberté sexuelle. Disons que c'était la position hédoniste opposée aussi au puritanisme de, par exemple, des mormons ou des amish que l'on connaît à travers un film célèbre qui continue à justement avoir un ordre de gestion de l'espace très ancien et qui est en certaine concordance aujourd'hui avec certaines demandes d'approche du territoire de la part des écologies. Alors il y a aussi un autre versant qui est, on peut dire, totalement opposé, et il serait intéressant justement que ce débat ait lieu entre l'autre versant. L'autre versant, il est vertical et non plus horizontal, et il s'agit de décisions qui sont prises au niveau de l'État. Encore une fois, vous verrez que je ne prends aucune position par rapport à ces deux qui ont à la fois leurs qualités et à la fois leurs excès et leurs défauts. La vision, on peut dire, autoritaire, mais c'est celle qui est aussi nécessaire. Par exemple, si on veut dépolluer des rivières, ce n'est pas uniquement des petites communautés qui vont agir seules, puisqu'il s'agit, par exemple, sur le cas d'une rivière, de protéger totalement tout le fleuve, de la source jusqu'à l'embouchure. Donc, ce ne peut être que des politiques qui sont beaucoup plus autoritaires et pas uniquement des décisions fragmentaires. Alors, on se trouve aujourd'hui, par exemple, avec d'un côté des gens comme Rabhi, et puis d'un autre côté une gauche qui est devenue écologiste, des positions qui sont, à mon sens, totalement contradictoires, qui devraient justement être à la source d'un débat. Donc aujourd'hui, ce débat qui retrouve toujours les mêmes thématiques entre le progrès et le conservatisme, et ce débat n'a pas lieu. Alors aujourd'hui, par exemple sur la ville de Toulouse, on a vu que il y a ce thème de l'écologie apparaît chez tous les candidats apparemment comme le premier des thèmes. Ce qui est assez surprenant parce que là, justement, si c'est dans la position de la deuxième partie de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une position verticale, il est évident que ce n'est pas au niveau de la commune que ça se passe. Ça se passe au niveau de l'État, au niveau de l'Europe ou au niveau de l'ONU. En tout cas, ce n'est pas au niveau d'une ville. C'est assez surprenant que ce thème soit comme premier thème au niveau des municipales, attendu que ce ne peut être qu'un thème, à mon sens, national, évidemment, ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir, comme il y a toujours eu, des actions locales sur les sols, sur l'hygiène, sur le verdi, sur les parcs. Bon, je veux dire que depuis que les villes sont les villes, ces préoccupations qui ont été mises en œuvre par les édiles pour les populations. Alors, il n'est pas mauvais que ça devienne peut-être plus lisible et objet de débat. Mais en fait, il ne faudrait pas que justement cette primauté de ce débat aille contre un véritable débat sur les autres enjeux. Par exemple, Toulouse. Et je ne fais pas à ce niveau-là de politique ou de choix politique pour les uns ou pour les autres. Et nous sommes une grande ville industrielle connue mondialement. Aux États-Unis, quand on parle de Toulouse, alors si vous êtes dans le milieu artistique, on vous dit Toulouse-Lautrec. Si vous êtes dans le milieu des affaires, on vous dit Airbus. Donc c'est une ville tout de même qui est connu, et Airbus, ce n'est pas rien. Donc, on a une ville scientifique avec des écoles de haut niveau, je crois qu'il y a 35 000 personnes qui travaillent à Airbus, donc c'est un impact économique qui dépasse totalement la ville elle-même, qui a une influence sur la région et évidemment sur le pays tout entier, même on peut dire même au niveau de l'Europe. Donc, c'est très curieux que justement les problèmes qui sont, dont on a parlé dernièrement au niveau de la chronique sur la mobilité, où justement ces accès à ces usines, à ces lieux de travail me paraissaient absolument pas traités et qui me paraissent essentiels. On a vu comment, par exemple, la route pour acheminer les pièces a été très vite créée, et on voit que on a toujours une desserte, ce que je disais dans une chronique précédente, on a une bretelle à une voie pour accéder sur la route d'Auch aux usines par la rocade. Bon, ce qui est quand même quelque chose d'absolument ahurissant. Et de cela, on ne parle pas, et on parle d'autres sujets qui sont peut-être pas négligeables, mais en tout cas qui, sur un plan hiérarchique, sont bien moins importants. Alors, un deuxième sujet aussi, peut-être qu'il y est au premier, c'est que Toulouse est une ville industrielle. Si elle est une ville industrielle, c'était aussi qu'elle est une ville de haut niveau intellectuel et scientifique. Et les universités qui ont 130 000 étudiants, avec un chiffre qui augmente régulièrement, donc qui est quasiment deux fois la population du centre-ville, c'est absolument énorme. Et on ne pose pas ce problème de l'université. Et en son temps, j'avais eu l'occasion de travailler sur ces problèmes de l'université et de penser que le modèle du campus américain, où on avait un campus de tous les savoirs, où on avait à la fois l'interaction qui pouvait exister entre les sciences, la philosophie, les autres disciplines, le droit, l'économie. Aujourd'hui, on les a éclatés tout autour de la ville. Il y aurait un projet, par exemple, une deuxième université qui serait une sorte d'université de tous les savoirs et qui aujourd'hui, bien plus qu'à cette époque où j'avais réfléchi à cela, cette interaction qu'on appelle fertilisation croisée est absolument nécessaire. Et ce projet-là, qui me paraît nécessaire, en tout cas pour mettre dans le classement de Shanghai nos universités un peu plus près que le peloton de tête américain, pourrait être un projet pour les municipales. Je lance l'idée et je vous dis à la semaine prochaine pour un sujet qui sera sur l'urbanisme et la naissance, toujours sur l'urbanisme et la naissance des villes. On fera un petit historique. Où vivrons-nous demain? Merci à Hugo qui officie à la technique. Et à Thierry qui m'assistait dans cette émission. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à tous et à toutes, et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour notre numéro de Où vivrons-nous demain ?